Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve en pleine forme, en tout cas en ce qui me concerne, pour ce super épisode que j'aurais dû faire depuis bien longtemps et qui m'est venu comme ça, parce que je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs tout à l'heure. Doit-on lire des contes de fées à ses enfants? Alors pour celles qui arrivent sur ce podcast par cet épisode, bah déjà bienvenue à vous. Vous pouvez le compter parmi vos podcasts préférés à présent. Oui, parce qu'ici on est sur un podcast qui parle de parentalité, de bien-être, d'organisation, bref, de tout ce qui va permettre aux mamans que nous sommes, bah d'améliorer notre quotidien, notre relation à nous-mêmes et puis bien sûr notre relation à nos enfants. Alors aujourd'hui, je voudrais parler des contes de fées. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce qu'il y a quelques jours, je suis tombée sur un réel d'une maman qui disait que qu'elle ne voulait pas lire de contes de fées à ses enfants. Et donc elle disait, c'était même pas tout à fait ça, c'était j'arrête de lire des livres de princesses à mes enfants. Et donc elle expliquait qu'elle préférait lire des livres de Marie Curie, Rosa Parks, Mère Teresa, bon elle en cite plusieurs, voilà. Et donc voilà, je m'arrêtais là pour le moment, je continuerai cette histoire après parce que déjà je voudrais réagir là-dessus. Déjà, est-ce qu'on peut lire des contes de fées à ses enfants? Ça, c'est une vraie question et honnêtement, je me la suis posée énormément. Peut-être même trop, je sais pas, mais en tout cas, je me suis dit que ce serait intéressant de vous expliquer mon raisonnement. Moi, quand j'ai eu mes premiers enfants, enfin mon premier enfant, Arthur, en 2012, j'ai tout de suite été séduite par l'approche de Maria Montessori. Pour celles qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez. Pour les autres, voilà, je suis une fille de Maria Montessori. En tout cas, sa philosophie me guide bien plus que pour la pédagogie de mes enfants, vraiment au-delà. C'est-à-dire que pour moi, la philosophie Montessori est un concept de vie, une forme de développement, de croissance et même d'épanouissement personnel. Et donc, évidemment, je me suis énormément intéressée à toute la production écrite de Maria Montessori, puisque c'est la seule chose qui nous reste d'elle à présent. Et donc, Maria Montessori explique assez vite dans ses livres que tout ce qui va être anthropomorphisme, donc par exemple de faire parler des petits chatons, des chiens, des oursons, ou même des animaux entre eux pour faire passer des messages, n'est pas adapté à la construction mentale des enfants. Elle explique aussi qu'il ne faut pas abuser de la crédulité des enfants. C'est pour ça qu'elle dénonce un petit peu le mythe du Père Noël dans lequel les adultes, en fait, pour leur plaisir, s'amusent de la crédulité des enfants en leur faisant croire qu'un monsieur avec une grande barbe blanche va venir apporter des cadeaux le soir de Noël. Et d'ailleurs, au-delà de ça, même fait croire à quelque chose, un idéal assez facile et accessible, alors que la réalité est tout autre. Puisqu'en réalité, bon, je ne vous révèle rien en vous disant que ce sont les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents, et toute la famille qui fait les cadeaux, et que nous sommes contraints à des limites budgétaires. Voilà. Donc c'est vrai qu'un enfant ne pourrait pas comprendre pourquoi il n'a pas eu toute sa liste de cadeaux, puisque de toute façon c'est le Père Noël qui l'apporte, sauf que dans la réalité, bon voilà, il y a les contraintes budgétaires et que bah, c'est pas forcément la même chose. Et donc elle dénonçait assez vite voilà, de ne pas s'amuser de la crédulité et de lire des histoires que les enfants sont capables d'appréhender et même dans laquelle ils vont pouvoir se projeter. Donc ça c'est un point qui m'a énormément séduit. Vraiment, j'ai été séduite par cette approche parce que très vite, j'en ai compris la consistance et la profondeur. Dans le sens où, en fait, la magie de Noël ne se résume absolument pas au Père Noël. La magie de Noël, c'est le fait de passer une période où on va aller voir ses proches, on va passer des moments avec eux, où on va leur préparer des attentions, où on va les gâter, on va les choisir des cadeaux qui leur font plaisir. Peut-être qu'on va pouvoir fabriquer, d'autres qu'on va acheter. Ça éveille aussi à où est-ce qu'on va les acheter. Est-ce qu'on va aller dans des brocantes? Est-ce qu'on va aller dans des magasins spécialisés? Le temps qu'on va mettre pour y penser, la réflexion qu'on va faire. Parce que avec mes enfants, je sais que souvent, on se concerte. Alors, quel serait le meilleur cadeau pour un tel ou pour un tel? Et donc, on en en parle, on y passe du temps. Après, on regarde où est-ce qu'on peut les acheter, où est-ce qu'on peut les trouver. Tout ça, c'est un processus assez magique dans le sens où on porte notre attention et on offre notre temps pour les personnes qu'on aime. C'est ça la magie de Noël, pas le fait de... Pas le concept matérialiste qu'on en a fait autour de... y a quelqu'un qui nous amène des cadeaux et on remercie personne parce que cette personne part sauvagement en mangeant trois biscuits et un verre de lait. Et donc voilà, j'ai été très, très séduite par tout ça. Et puis pareil pour l'anthropomorphisme, pourquoi se cacher derrière un chien, un chat, un ourson, un pingouin ou une représentation de tous ces animaux-là pour faire passer des messages aux enfants, pour les aider à se projeter sur ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Au contraire, l'enfant, et là je parle du jeune enfant, hein, là on va vraiment faire un focus sur la période 0-3 ans, sur cette période-là, l'enfant a besoin de comprendre son environnement. Hein, Maria Montessori l'expliquait comme ça, l'enfant doit pouvoir comprendre comment fonctionne son environnement pour pouvoir se positionner dans cet environnement. Et évidemment que la littérature fait partie de l'environnement de l'enfant. Tout ce qu'on va apporter comme histoire aux enfants est importante et va avoir un rôle dans leur construction. Et donc, à ce titre-là, je trouve que c'est dommage de lire des livres dénués de poésie, dénués d'objectivité, dénué de représentation, enfin en tout cas de représentativité concrète pour les enfants. C'est juste ça. En fait, c'est même pas être pour ou contre, c'est juste de se dire qu'il y a tellement de choses intéressantes dans la littérature que l'on peut présenter à de très jeunes enfants et qui vont pouvoir les projeter dans des situations concrètes de leur vie, des choses qu'ils peuvent vivre, des choses qu'ils peuvent ressentir, des choses qu'ils peuvent expérimenter, que c'est dommage de tout déformer à travers la vision d'un petit ours brun ou d'un choupi. Tout simplement, qui sont en plus de ça, alors si on veut aller un petit peu plus loin, on peut observer la prose de ces histoires-là, qui n'est pas très recherchée. Alors soit l'enfant a besoin de choses simples, mais on peut quand même y intégrer de la poésie. Donc voilà, c'était juste pour ça, sur cette période 0-3 ans, je pense qu'il faut rester dans le concret. Ces livres-là ne sont pas forcément faciles à trouver, mais il y en a. Moi, je sais que par exemple, j'avais beaucoup aimé « Deux petits pieds, deux petites mains ». Je ne sais plus qui est l'auteur. « Deux petits pieds et deux petites mains ». Ce sont des petites histoires très mignonnes que les enfants vont pouvoir écouter par vous, hein, vous allez pouvoir leur lire, qui ont cette rengaine que les enfants aiment tant, les petits-enfants, vous savez, ils aiment les refrains. Quand quelque chose revient dans l'histoire, ils aiment, c'est cyclique, c'est rythmé, c'est ordonné. Et donc ça les rassure, les petits-enfants ont besoin de se construire à travers ce genre d'histoire. Donc vous pouvez y aller, De petites mains, De petits pieds, de Mem Fox et Hélène Oxenbury. Vous pouvez d'ailleurs aller voir d'autres histoires de Mem Fox et Hélène Oxenbury. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me vient à l'esprit comme ça? J'essaierai de les mettre dans les commentaires. Je vais y repenser après, enfin dans la description de ce podcast, pour y aller, parce que spontanément, voilà, il y a celui-là que mes enfants ont beaucoup beaucoup aimé. Ça commence un petit peu à dater maintenant, cette période-là, parce que on en est sorti depuis quelques années, la toute petite enfance de 0 à 3 ans. Mais je vous mettrai quelques-unes des références autres que ce petit livre de Mem Fox que nous avons beaucoup beaucoup aimé. Maintenant, je voudrais passer, donc on va avancer dans la chronologie des enfants. Et donc, on va aller sur maintenant les 3-6 ans. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, les 3-6 ans? Est-ce qu'ils ont besoin, en effet, d'histoires de princesses, de princes charmants, de contes, etc.? Parce que c'est toujours ça le débat, encore une fois. Doit-on lire des contes de fées à ses enfants? En fait, à 3-6 ans, entre 3 et 6 ans, l'enfant va vraiment commencer à faire preuve d'imagination. Hein, il va pouvoir commencer d'ailleurs à avoir des petits jeux. Il va par exemple pouvoir jouer avec une petite cuisine, vous voyez, en bois, à la dinette. Il va peut-être pouvoir jouer à vous soigner. Il va pouvoir jouer voilà, au docteur, au cuisinier, à toutes ces choses-là. C'est des choses qu'on peut facilement voir arriver. Et où il va y avoir des petites histoires, hein, très petites, qui vont commencer à émerger. Vous savez, rien que quand l'enfant vient vous voir en disant « Est-ce que tu veux goûter le café que j'ai fait ?» et qu'il a 4 ans, il est déjà dans l'histoire. Il est en train de s'imaginer en tant que cuisinier ou chef qui vient vous apporter un café. On est déjà dans l'imagination de l'enfant. Et donc, l'enfant va jouer, va s'amuser à des choses très concrètes. Il a besoin de comprendre, encore une fois, son environnement. Alors maintenant, avec des histoires un petit peu plus longues, mais qui vont toujours être très concrètes. Pourquoi ? Parce que les histoires trop abstraites, et si on parle là des contes de fées, elles sont pas évidentes à saisir. Je vous mets au défi de comprendre la morale de, par exemple, La Petite Sirène, histoire qui a été écrite par un Andersen très, très torturé à un moment de sa vie où il voyait l'amour de sa vie se marier avec, avec une autre personne. Et donc, il a écrit La Petite Sirène, donc une jeune fille prête au plus grand des sacrifices pour se faire aimer d'une personne, mais qui malheureusement verra son amour non retourné et en mourra. C'est pas évident d'apporter ça aux enfants, notamment aux enfants de 3 à 6 ans. Ce sont des histoires assez dures. Si on prend l'histoire de Blanche-Neige, hein, qui est presque une histoire d'infanticide, on voit là une femme qui n'accepte pas sa belle-fille et qui demande à une tierce personne d'aller la tuer en lui ramenant ses poumons et son foie pour les manger. C'est pas facile de lire ça. Aujourd'hui, on a les versions édulcorées de Disney qui sont, on va dire, assez exemptes de ces atrocités, en tout cas de cette forme de violence. Mais j'ai envie de dire que les contes de fées ne sont pas forcément accessibles aux enfants les plus jeunes, en tout cas dans leur version originale. Et je trouve ça d'ailleurs aussi, pour parler des contes de fées, doit-on lire des contes de fées à ses enfants ? Moi, je pense qu'il faut quand même attendre une certaine maturité, tout simplement, pour que nos enfants puissent être prêts à recevoir ce genre de lecture. Et d'ailleurs, pourquoi se focaliser sur les contes de fées alors qu'il y a une diversité et une pluralité de l'offre littéraire absolument magnifique ? Nous, on s'est régalé avec des livres comme La tarte à la tomate. La tarte à la tomate, d'ailleurs, vous pouvez lire toute l'œuvre de Satomi Ishikawa, La tarte à la tomate, qu'on a adoré. Il y a plein de livres de cet auteur-là qui sont absolument grandioses, dénués de tout anthropomorphisme et axés vraiment sur des choses concrètes sur lesquelles les enfants vont pouvoir se reconnaître et qui vont permettre de s'ouvrir à un univers littéraire très sain, pas forcément genré pour ceux qui ne voudraient pas avoir des histoires de genre et qui sont un régal pour les parents à lire. Et donc si je reprends ce post sur lequel je suis tombée et qui m'a donné envie de faire ce podcast, c'est que donc cette maman donc disait qu'elle préférait lire des livres comme Rosa Parks, Marie Curie, Mère Teresa à ses enfants. Et donc voilà, donc, bon, ok, pourquoi pas, très bien. C'est intéressant. Alors attention juste de ne pas mettre ces femmes sur un piédestal. Alors évidemment, ces femmes sont absolument inspirantes, ont fait des choses qui ont fait bouger les mentalités, qui ont fait avancer la science, qui ont fait preuve de générosité, d'humilité. Donc c'est absolument incroyable. Ce sont des parcours de vie qui méritent en effet d'être connus. Mais encore une fois, ce sont pas des histoires faciles à entendre dans leur globalité, hein. Si on prend par exemple Marie Curie, elle est quand même morte dans d'atroces souffrances parce qu'elle n'a pas fait, elle ne connaissait pas les risques de ce qu'elle était en train d'avancer, de trouver, de chercher. Si on prend Rosa Parks, bon, elle n'a pas une vie facile et je pense qu'elle a eu beaucoup de blessures liées à sa condition. Donc c'est bien, on retient son action, mais voilà, faut pas oublier qu'elle a dû se construire et se reconstruire à travers, notamment, enfin, trouver sa place avec la création de son identité, comme beaucoup des personnes de sa condition à cette époque-là. Mère Teresa, elle a aussi fait, j'imagine, don de beaucoup de choses en elle pour l'offrir à des personnes plus démunies. Donc, faut aussi penser à tout ça et aux sacrifices que ces femmes ont faites. Et donc, du coup, dans ce poste, il y avait quelque chose qui m'a amusée et en même temps alarmée. C'est que j'ai lu un petit peu, je voulais lire les commentaires, de voir un petit peu ce que les gens disaient, parce que forcément ça fait énormément débat, ça fait énormément réagir les gens, c'est un sujet très émotionnel. Et donc il y avait certaines personnes qui disaient, oui, Mère Teresa, bon, apparemment elle a été prise dans des enjeux politiques, et finalement elle n'était pas si bonne que ça. Il y avait pas mal de commentaires qui allaient voilà, dans le sens où on venait montrer des aspects plus sombres de la personnalité de ces femmes. Alors oui, pourquoi pas, déjà d'une, voilà, restons objectifs et essayons de comprendre les choses en sachant que bah, aucune personne, et que ce soit une femme ou un homme, n'est dénuée de part plus sombre, d'une part d'ombre, et porte en elle des actions dont elle n'a pas toujours été fière. Donc ça, c'est OK. En fait, ces femmes-là ne sont pas des dieux. Donc elles ont sûrement fait des choses qui ne sont pas forcément louables, mais en même temps, qui n'en fait pas. Donc faut-il leur jeter la pierre? Je ne pense pas. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, l'auteur du poste répondait à ces messages-là en disant « Ah bah merci, merci de me le dire, je ne le savais pas. Merci de rétablir la vérité. » Oui, alors j'ai envie de dire, attention, ne croyons pas, enfin ne prenons pas ces choses-là comme acquis. Et j'ai envie de dire, ayons un libre arbitre, faisons des recherches, allons chercher par soi-même. Et finalement, j'ai été un peu déçue de la réaction de cette maman qui avait fait un post qui aurait pu être très intéressant à la base, mais qui finalement tombe dans le piège de tous ceux qui vont dire que les contes de fées c'est pas bien, ou qu'il faut pas lire ça, ou que c'est trop genré, ou qu'il faut pas tomber dans le mythe de la princesse dévouée à son mari ou quoi que ce soit. Finalement, en enlevant toute la profondeur des réponses qui auraient pu être faites par des recherches, en fait, finalement, pour moi, elle tombait dans ce qu'elle avait sûrement voulu éviter. Et là où je veux en venir, c'est que, sincèrement, la littérature n'est pas faite pour nous mener en bateau, n'est pas faite pour nous amener à voir ce que l'on sait déjà. Au contraire, choisissons des livres parce qu'ils vont pouvoir nous transporter à travers une époque, à travers une culture, à travers des croyances, et comprenons-la, déchiffrons-la. Comprenons quel était l'état d'esprit de l'auteur, qu'est-ce qu'il a voulu dire, où est-ce qu'il a voulu nous emmener, quelle était la réalité, le contexte économique, politique, sociale, culturelle, à cette époque-là. Ça, c'est intéressant. Alors évidemment, je vous parle, pour le coup, on a encore avancé, je vous parle pour les enfants à partir de 6 ans. À partir de 6-7 ans, on peut lire des choses plus complexes à ces enfants qui va amener des sujets d'études, hein, des sujets de compréhension. Mais ne mettons pas le débat à « doit-on lire des contes de fées ?» Soyons au-dessus de ça et voyons comment est-ce que la littérature peut devenir une source d'éveil, de compréhension, d'éducation, d'expérience, de développement même personnel. et amenons à nos enfants une nourriture littéraire qui va nourrir leur esprit, leur âme, leur corps, leur imagination, mais de manière saine, de manière appropriée. Guidons-les à travers cette fabuleuse aventure qu'est la lecture. Et ne choisissons pas des livres uniquement pour faire débat ou pour se rattacher à un dogme idéologique. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve que le débat n'est pas là. Le débat est quels sont les livres que l'on peut lire à nos enfants et qui vont leur permettre de croître personnellement. C'est ça la question. Et la réponse est là-dedans. Il y a tellement d'auteurs. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, la plupart des auteurs sont là-dedans, sauf la littérature un peu cheap, la littérature qu'on a voulu écrire uniquement pour les enfants. Moi, quand je me refuse à lire Petit Ours Brun, Choupi, même, vous savez, ces romans faits pour les jeunes. Je pense à quoi d'ailleurs ? J'ai des visuels en tête, mais je n'ai pas des titres. Je pense à beaucoup de livres de la Bibliothèque Rose ou la Bibliothèque Verte. Si je prends sur mon ordinateur la Bibliothèque Rose, par exemple, qu'est-ce qu'on va avoir? Non, en fait, je connais pas, donc je ne vais pas non plus me rabaisser à juger dessus, par exemple. Vous voyez, des choses sur lesquelles je n'irai pas, par exemple, instinctivement sur des LOL. Ça, j'irai pas. J'irai pas sur des Rainbow Height. J'irai pas sur les poneys enchantés. J'irai pas sur Monster Height. J'irai pas sur Bienvenue chez les Loud. Voilà, j'irai pas sur des spirits ou mes amis les chevaux. Là, je suis en train de voir les titres qui passent devant moi. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça, ce sont des livres qui ont été créés de toutes pièces, donc pour des enfants d'aujourd'hui. Mais je pense que, alors encore une fois, il faudrait que j'en lise un pour me faire une représentation. D'ailleurs, si vous en avez, vous pouvez m'envoyer des messages par rapport à ça. Mais j'aurais peur, en fait c'est une peur, j'aurais peur que le niveau d'écriture soit trop bas. Je vous dis pas non plus qu'ils lisent des Dickens ou des Jules Verne, qui sont pas toujours faciles d'accès non plus. Mais je pense que on peut sincèrement trouver un niveau plus intéressant d'écriture que ces romans nouveaux, écrits uniquement pour des enfants de, par exemple, 8 à 12 ans. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et je pense sincèrement qu'on peut trouver dans la littérature des auteurs qui sont adaptés aux enfants, et notamment je pense à Roald Dahl, je pense à Michel Morpurgo, il y a Arthur par exemple qui est en train de lire actuellement les Enfants de Baudelaire. Alors, je les appelle comme ça, ça ne s'appelle pas comme ça, c'est pas Les Enfants de Baudelaire, c'est, je crois, Les Terribles Aventures des Enfants de Baudelaire. Des histoires, en fait, qui ont été écrites, qui sont adaptées à des enfants, mais qui sont porteuses de sens, qui sont porteuses d'une morale, qui ont beaucoup de profondeur et de consistance, dans lesquelles les enfants vont être confrontés à des mots dont on va chercher la signification. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire « Cheval de guerre aux enfants », donc de Michel Morpurgo, et par exemple, dans ce livre, l'auteur parle d'une badine. Les enfants m'ont posé la question, c'est quoi une badine ? C'est intéressant, en fait, de découvrir des mots. Finalement, c'est un peu c'est une sorte de fouet, de cravache. Donc, ça a permis aux enfants de découvrir un nouveau mot. Je ne connais pas Spirits ou qu'est-ce que je vous ai dit d'autre tout à l'heure, ou LOL Surprise, mais je pense que à travers ce genre de livre, on va moins avoir de nouveaux mots, on va moins avoir de richesse et de diversité dans le champ lexical, dans le choix des mots. Et voilà, et je trouve que en tant qu'amoureuse des livres, je trouve que c'est quand même plus intéressant avant tout d'offrir des livres à nos enfants qui vont leur permettre de nourrir une forme de croissance et de développement personnel. Donc finalement, le livre, doit-on lire des... Enfin, le débat, si on reprend le titre de ce podcast, doit-on lire des contes de fées aux enfants? La réponse est oui, bien évidemment, mais à partir du moment où ils pourront comprendre et accueillir aussi la profondeur, la violence et toute la torture de ces histoires, parce que finalement, les contes de fées, ceux auxquels on fait allusion quand on parle des contes de fées, sont des histoires assez sinistres, assez crues, parfois assez sauvages, et qui sont le reflet d'une époque. Et la question, c'est est-ce que les enfants les plus jeunes sont capables d'entendre des histoires aussi dures? Bien sûr que non. Donc voilà, de même que par exemple, mes enfants, je ne leur ai jamais lu Le Petit Chaperon Rouge, par exemple, ou La Petite Fille aux Allumettes. Alors, Le Petit Chaperon Rouge et La Petite Fille aux Allumettes sont des histoires absolument magnifiques et avec une morale très, très grande, très profonde, mais qui ne sont absolument pas adaptées à un public de moins de 6-7 ans, tout simplement parce que l'histoire est compliquée. Et donc je pense qu'au-delà de doit-on lire des histoires, enfin des contes de fées aux enfants, c'est simplement respectons le développement des enfants et apportons-leur des histoires qu'ils sont capables d'entendre, de comprendre et dans lesquelles ils vont pouvoir se projeter. Et donc c'est pour ça que même les contes, vous voyez, les contes de fées, si on prend La Petite Sirène, Blanche-Neige, etc., La Belle au Bois dormant, hein, qui revisite les différentes phases, les différentes étapes de la femme, la Belle au Bois dormant, hein, qui commence enfant, puis adolescente, qui à l'adolescente voit le sang couler de son doigt parce qu'elle se fait piquer par le fuseau, et qui s'endort. C'est très métaphorique du fait que bah, la jeune fille à l'adolescence verra du sang couler et donc bah, devra quitter cette période de l'enfance pour se tourner vers celle de la féminité, de la maternité et puis ensuite de la vieillesse. Donc voilà, ce sont des livres très, très profonds finalement si on reprend les contes originels, mais qui ne sont absolument pas accessibles à des jeunes enfants. Et si je prends ces contes-là d'ailleurs, je pense qu'il faudrait les introduire pas avant 10-12 ans. Ce sont presque des contes que l'on peut lire à l'adolescence, quand on est à la recherche de certains repères, de certains codes, et qu'on a une connaissance plus profonde des choses qui nous entourent. Voilà. Voilà, pour ce podcast que j'avais très envie de faire. Bon, j'espère qu'il vous a plu. Je vais vous mettre des références de livres, quelques-unes, adaptées aux tranches d'âge dans la description de ce podcast. Donc n'hésitez pas à la lire si vous avez besoin de lecture, de sources d'inspiration de lecture. Sachez aussi que j'ai fait d'ailleurs le book club chaque mois maintenant depuis décembre 2023. Chaque mois, je dédie un épisode de podcast à une idée de lecture que vous allez pouvoir partager à vos enfants. Donc vous voyez comme le sujet de la lecture me tient à cœur. D'ailleurs, j'ai des copines avec qui je ne parle quasiment que lecture et j'aime ça. Je pourrais parler des livres pendant des heures et des heures et des heures. J'aime lire, je lis depuis que je suis toute petite. J'ai toujours énormément de livres ouverts sur ma table de nuit. Je lis frénétiquement. Je lis parfois jusqu'à ne plus pouvoir ouvrir les yeux et m'endormir avec mon livre ouvert, ou en tout cas mon livre posé sur moi, parce que je lis de plus en plus sur une liseuse depuis quelques années. Bref, la lecture me passionne, la lecture m'enchante, la lecture me fait grandir. La lecture m'ouvre des portes, la lecture m'apporte des amis aussi. Et c'est tout ça en fait que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Et j'ai tellement, vraiment envie de me dire que le débat est tellement plus haut que doit-on lire des contes de fées à ses enfants. Et voilà, et j'espère que vous aussi, vous transmettre à travers notamment ces épisodes de Book Club, vous transmettre l'envie de lire des livres qui vont vous permettre d'entrer dans un état de communion avec vos enfants. Parce que c'est vraiment de ça. Moi, je veux dire, les livres que je lis, je les transmets à mes enfants. Alors, pas tous, il y en a qui sont trop durs, mais. Et encore, par exemple, vous voyez, je viens de terminer Khalil de Yasmina Khadra, qui est un livre qui explique en fait l'état d'esprit d'un terroriste, je dis terroriste parce que mes enfants font des histoires sur les terroristes sur Instagram, bref. Donc qui se met dans la tête d'un terroriste sur les attentats du 13 novembre. Et donc j'en ai parlé à Arthur, alors pas à Gaspard et Constance, ils sont un petit peu trop petits, selon moi en tout cas, mais j'ai raconté cette histoire à Arthur. Et lui aussi me raconte ses livres, donc par exemple Les Orphelins de Baudelaire, bon, j'ai raccourci le titre, hein. C'est pas le titre original, hein. Mais je l'appelle comme ça avec lui. D'ailleurs j'en ai même oublié le titre original pour vous dire, hein. Il me raconte à chaque chapitre qu'il lit, il me raconte où il en est. D'ailleurs ça met en exergue ses capacités de narration, de restitution. Donc c'est très intéressant. Et puis bah voilà, encore une fois, on se partage nos lectures. Par exemple, je suis en train de lire aussi La Traversée des Temps, hein, l'œuvre de Erich Emmanuel Schmidt qui est encore inachevée. Et bah, à chaque fois que je lis un de ses romans, je raconte l'histoire aux enfants. Je leur ai lu Ma vie de Bacha Poche parce que malheureusement, je ne leur ai pas lu, je ne leur ai pas offert. Mais voilà, je leur raconte énormément des histoires que je lis. Eux me racontent les siennes. Enfin, les leurs, quand ils les lisent tout seuls. On se parle aussi de nos lectures. Enfin, je trouve ça tellement intéressant. C'est tellement une opportunité d'échange absolument incroyable dans lequel nos points de vue vont pouvoir être confrontés et donc justement à travers lesquels on va pouvoir se forger une opinion, peut-être faire des recherches. Et donc mettre en exergue des capacités de libre arbitre, de recul, enfin bref, c'est passionnant. Voilà. Donc je suis très heureuse d'avoir fait ce podcast. J'espère qu'il vous aura autant plu à vous pour l'écouter qu'à moi de l'avoir fait. N'hésitez pas à échanger, enfin en tout cas à me faire des retours sur cet épisode, à en parler autour de vous, à ouvrir le débat, pourquoi pas un débat plus élevé là-dessus. Et voilà, bah écoutez, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.